Les podcasts d'Opost sont en libre accès et ceci grâce à vos dons. Soutenez la riposte sur opost.fr.
Amis du café, amis des convocations impromptues, amis du courage, amis de Marseille, eh bien bonjour. Bonjour Amine Kessassi.
Bonjour.
C'est incroyable de te voir ici. Je te tutoie parce que tu m'as tutoyé dans la cour.
Se connaissait.
Et voilà, parce qu'on se connaissait. Comment vas-tu ?
Très bien, et toi ?
Ah, moi je vais très bien, je vais très bien. Tu as 22 ans, tu as un courage fou, tu es plus rapide que l'éclair, puisque quand j'ai lancé une petite invitation sur ton compte Instagram, je me suis dit, bon, ça va se perdre, pas du tout, tu m'as répondu. Tu m'as dit, ok, il faut voir avec un tel, j'ai vu avec un tel, 2 jours après, tu es là.
Et oui, c'est important.
Qu'est-ce que tu fais en région parisienne, là, en ce moment ?
Plein de choses. Je suis venu rencontrer du monde, rencontrer de la presse. J'ai été avant-hier à Saint-Denis pour soutenir la liste d'Union de gauche à la mairie de Saint-Denis avec Mathieu Hanotin. Voilà.
Énorme respect, nous dit Ariman FR dans le chat. Je le disais, tu as un courage fou et ton nom, Kessassi, Amine, résonne comme un symbole de résistance dans les quartiers nord de Marseille. Après l'assassinat de 2 de tes frères, tué par des narcotrafiquants, ce jeune écolo que tu es a transformé sa douleur en combat, celui d'une jeunesse qui refuse de se plier à la narcotracie. Fondateur de l'association Conscience, tu accompagnes Tu dénonces l'abandon des quartiers populaires. Candidat au municipal à Marseille sur la liste de Benoît Payan, on va en parler. Tu incarnes une nouvelle génération d'activistes à la croisée du personnel et du politique. Ton discours, à la fois radical, intime, force le respect. Tu es menacé, tu es sous protection policière. C'était la raison pour laquelle nous n'avions pas annoncé cette émission avant 10 minutes. Et tu continues de défier et les trafiquants, et les sceptiques, et les critiques. Et c'est un honneur de te recevoir.
Bah, tout l'honneur est pour moi, merci.
Est-ce que j'ai raconté des conneries dans l'intro ?
Non, peut-être juste expliquer que Mehdi, mon petit frère, qui a été assassiné en novembre dernier, a été assassiné pour rien, a été assassiné parce qu'il était mon petit frère, c'est sa seule culpabilité. Mehdi, mon petit frère, était étudiant, il avait passé le concours de gardien de la paix, c'était ce qu'il voulait devenir, ce jeune des quartiers qui voulait être policier pour établir la justice et garantir la paix. Et il m'a dit, mon petit frère, il est coupable uniquement d'avoir été mon petit frère. Il n'a jamais mis les pieds dans un tribunal, jamais mis les pieds dans un commissariat. C'est pas quelqu'un qui était impliqué dans des bêtises ou dans je ne sais quoi. Et la seule raison pour laquelle il a été assassiné, c'était pour me faire passer un message à moi.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur l'enquête ou pas ?
Bah, je sais pas grand chose de cette enquête. Il y a une enquête qui aujourd'hui est en cours. Il y a des investigations qui sont menées. Donc l'enquête va avancer et je fais confiance aux services de justice qui sont pleinement mobilisés sur ce dossier et tous les autres dossiers de ces jeunes assassinés à Marseille.
Je disais, tu es donc sous protection policière. Il va sans dire qu'on va pas détailler cette protection. Moi, ce que je peux dire, c'est que depuis hier, j'ai des échanges SMS avec ces messieurs qui te protègent. Comment, à 22 ans, on se retrouve... comment on vit ça, d'être sous protection policière, c'est-à-dire, non pas sur... Enfin, peut-être un petit peu sous surveillance, mais ça... Bon, je ne vais pas t'embêter avec ça, mais en tout cas, d'être constamment... de jamais être seul, quoi.
Sous surveillance, je pense pas. J'ai rien à me reprocher. Je suis responsable de rien. Ma seule action, c'est de mener ce combat pour la paix, pour la justice dans les quartiers populaires, de mener cette vague d'espoir, de perspective d'avenir pour les jeunes du narcotrafic. Ma seule culpabilité, c'est d'avoir écrit un livre dans lequel je dénonce le narcotrafic sans parler de personne, sans citer de nom, et uniquement où j'écris à mon frère aîné Brahim une longue lettre d'amour où je me confie sur l'état de nos quartiers, sur la narcocratie, etc.
C'est donc le livre Marseille, essuie tes larmes, vivre et mourir En
terre de narcocratie. Et la narcocratie, c'est le pouvoir qu'ont les narcotrafiquants d'influer sur nos vies. C'est le pouvoir qu'ont les narcotrafiquants de se faire passer pour des super-héros dans les séries telles que Narcos, etc. C'est le pouvoir que les narcotrafiquants ont de rendre la jeunesse des quartiers populaires en esclavage, en esclave de ce fléau et de ce système.
Je vais lire, si tu veux bien, un petit bout de la quatrième de couverture. Comme ça, tu peux jeter un coup d'œil au chat. Amine est très heureux qu'il y ait le chat. Donc, si vous avez des questions à poser directement à Amine, vous pouvez le faire. Et voilà. Alors, je lis juste le début de la quatrième de couverture parce que je trouve que ça explique formidablement ton point de vue, ta position. Tu es mort d'avoir cru un rêve pourri. Vendu au détail dans les cages d'escalier, et si je parle aujourd'hui, c'est pour en finir avec ça. Brûlé dans une voiture, c'est ainsi qu'est mort Brahim, ton frère. Une exécution aussi brutale que préméditée, en attendant le procès de ceux qui ont tué ton frère, Amine prend la plume et entame un dialogue posthume avec Brahim. Il lui écrit une longue lettre d'amour, de douleur, de révolte, pour rétablir le lien qui leur a arraché. Amine refuse que son frère ne soit qu'une statistique, un fait divers de plus. Il brosse le portrait d'un homme à la trajectoire brisée. Il raconte une vie maudite, mais Amine Kessassi ne s'arrête pas là. Il interroge. Ça va être l'objet de notre émission, tes interrogations, tes questions, tes colères. Et c'est, dis-tu, à cause de ce livre que ton deuxième frère...
Pas à cause, non, parce que les menaces que j'ai reçues, et on m'a prévenu que j'allais... qu'un contrat avait été placé sur ma tête quelques semaines avant la parution de mon livre, quelques semaines avant que je ne communique sur le fait que j'ai écrit un livre et sur la date de parution, j'ai appris que j'étais menacé dès le 18 août et mon livre est sorti la mi-octobre, plutôt début octobre, et je l'ai annoncé courant septembre, donc le livre n'était pas encore en considération dans ce contexte, même si mon petit frère a été assassiné, mais les menaces en tout cas étaient antérieures. Pour répondre à la question de tout à l'heure, comment on vit à 22 ans avec une protection policière, bien sûr que les choses elles sont compliquées, bien sûr que c'est pas évident, bien sûr que à 22 ans on aimerait être libre de ses faits, de ses gestes, on aimerait sortir, pouvoir aller voir des amis, et ça m'est aujourd'hui impossible. Tu les avais vus tout à l'heure, ils sont nombreux, il y a un vrai gros dispositif là-dessus parce que la menace est aussi élevée. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont à ma recherche, des personnes qui veulent m'assassiner. Et donc là-dessus, moi, je veux faire part de ma reconnaissance à ces personnes qui assurent cette protection et qui me permettent d'être là aujourd'hui.
Commençons par le début. Tu es né et tu as grandi à Frévalon, c'est bien ça ?
Tout à fait.
C'est quoi Frévalon ?
Frévalon, c'est une des plus grandes cités de Marseille. C'est une cité où il y a un peu plus de 8000 habitants. C'est une cité qui finalement ressemble à toutes ces autres cités où on a eu le retrait des services publics, où on a eu un abandon de l'État et de la République, où on est pointé du doigt, stigmatisé, tenu responsable de tout. Et à la fois, on a des femmes, des mamans qui se battent, qui sont des véritables guerrières, qui se lèvent, qui travaillent, qui élèvent leurs enfants comme elles le peuvent, qui les emmènent à l'école, qui les récupèrent. On a des associations qui viennent combler les vides de ce retrait de la police de proximité, de ce retrait des services publics. Et c'est une cité où la solidarité, elle a tout son sens. Frévalon, c'est une grande famille, et comme dans toutes les familles, des fois on se dispute, des fois on n'est pas content les uns les autres, mais on reste une famille. Quand un tombe, l'autre se jette pour le récupérer. Quand il manque du sel ou de l'huile chez une maman, elle tape chez les voisins voisines. Et donc c'est dans cette solidarité-là que j'ai grandi à Frévalon.
Mais Frévalon, est-ce que tu peux décrire le lieu, comment est-ce qu'il a une particularité, est-ce qu'il est sans équipement, avec des équipements, il y a des écoles, il y a pas d'école.
Non, Frévalon, c'est d'ailleurs une des seules cités, c'est la seule cité marseillaise où on a un métro dans le quartier, et ça a une importance. Moi, j'ai jamais suivi ma scolarité dans le quartier. Ma mère, elle a toujours voulu nous emmener à l'école ailleurs, en centre-ville, dans les quartiers sud de Marseille, et ça, c'est grâce au fait qu'on avait un métro qui pouvait pouvait nous permettre d'être à 15 minutes des quartiers sud et du centre-ville. Et donc c'est la seule cité de Marseille où on a un métro. C'est à la fois la seule cité où on a un grand espace vert. On a une colline de plusieurs hectares qui est immense, dans laquelle j'ai beaucoup de souvenirs. On s'amusait beaucoup, j'y prenais beaucoup de temps pour lire, pour me poser. L'été, c'est dans cette colline qu'on organise les concours de motocross, etc., dans la cité. Donc, c'est cette colline où j'ai beaucoup de souvenirs.
Tu as l'habitude de dire que la République s'est construite sans les quartiers populaires. Qu'est-ce que tu entends par là ?
Je ne dis pas véritablement ça. Je dis que la République, elle s'est construite avec la sueur des gens des quartiers populaires, avec les classes ouvrières, avec le peuple, comme ils nous appellent. Et puis aujourd'hui, on nous a tourné le dos. Et ça, c'est un véritable constat, quelque chose de tangible. Quand on a, pour parler de Marseille, l'ancien maire de Marseille qui disait « Oui, mais la question de la drogue, c'est les quartiers nord, tant qu'ils se tuent entre eux, ils font le ménage. » Ils font le travail de la police, donc il ne faut pas s'en mêler. Ça montre bien à quel point on est laissé pour compte, à quel point il y a cette volonté à la fois de non-action, à la fois en quelque sorte d'acheter une paix sociale, de dire bon, ça va cantonner un territoire, c'est une partie de la population dans laquelle il n'y a aucune mixité sociale, etc. Et donc oui, c'est effectivement un enjeu, je pense, d'action collective, où on a besoin d'une réponse globale. La question du narcotrafic, elle ne peut se traiter qu'avec ces réponses répressives, qu'avec ces moyens de justice, etc. Le narcotrafic, ça se combat avec un enjeu de sécurité, de police de proximité, avec un enjeu de justice, mais ça se combat surtout avec un enjeu de justice sociale, avec un enjeu d'emploi, avec un enjeu de retour des services publics, avec un enjeu de mieux accompagner les associations, de ne plus donner les missions de l'État à ces assos et leur dire faites notre travail à coup de 2000 euros de subvention par an et débrouillez-vous. Et donc on a véritablement besoin d'un plan global sur la réponse du narcotrafic.
Est-ce que tu as le sentiment que le discours donc, que je pense que tu prêtes à Gaudin, ancien maire de Marseille, je ne sais pas si c'était à lui
Tout à fait.
Tu faisais allusion, donc là il y avait une émission de Salva Graf, est-ce qu'on peut dire que la politique de Gaudin a fait beaucoup pour délaisser Marseille et donc laisser le trafic se mettre en place? C'est un peu ce que tu viens de dire. Est-ce que à l'échelle marseillaise, mais plus généralement à l'échelle globale de la France, est-ce que tu penses que ce discours godinesque est toujours là, ou est-ce que l'ampleur des narcotrafics modifie un peu la donne, et si oui, dans quel sens?
Aujourd'hui, les pouvoirs publics, les maires des petites communes, l'autorité, comme on peut l'appeler, elle se retrouve face à une vraie vague qui fait peur, une vague qui submerge, une vague qui vient et qui a pour but de se substituer au service public, de se substituer à l'État dans les quartiers, puisque dans les quartiers, c'est les trafics qui organisent les choses. C'est eux qui font les barrages qui empêchent les gens d'aller et de venir. C'est eux qui, l'été, payent des piscines pour les jeunes du quartier. Il faut bien les remercier et bien savoir que c'est eux. Moi, comment je compare le narcotrafic? Je le compare véritablement, et je pense qu'il y a de vrais et de vrais liens, je le compare avec la lutte anticapitaliste. Parce que le narcotrafic, il est organisé dans la même façon que le capitalisme. On a cette pyramide du capitalisme avec au sommet les têtes de réseau, les grosses têtes narcotrafiquants, qui eux vivent très bien de l'argent de la drogue, qui eux vivent des milliards que génère le trafic de stupéfiants. Et eux, par contre, ils ne vivent pas en France, ils vivent en Arabie Saoudite, à Dubaï, en Thaïlande, dans ces pays-là. Et tout en bas de cette échelle, comme le capitalisme, on a des jeunes en pied d'immeuble, des jeunes qui vivent très mal de cet argent. Très très mal, puisqu'ils touchent moins 15 SMIC si on se met à calculer le taux horaire, etc. Et ces jeunes, ils sont finalement les premières victimes, et les victimes collatérales, et les victimes de ce système, parce que c'est jamais les têtes de réseau qui sont tuées, c'est jamais les têtes de réseau qui sont arrêtées, c'est jamais les têtes de réseau qui sont jugées, c'est toujours les petits en pied d'immeuble, c'est toujours eux qu'on vient démanteler dans les opérations coup de poing, c'est toujours eux qu'on vient arrêter en premier, c'est toujours eux qu'on stigmatise, c'est toujours eux à qui on jette la pierre. Et je justifie absolument pas ce qu'ils font, hein. Si ces jeunes-là doivent répondre devant la justice, soit. Mais à un moment, je pense que quand on se dit en guerre face à un fléau, quand on se dit en guerre, et d'ailleurs comme le capitalisme, le seul vocabulaire, le seul dialogue, la seule langue, le seul langage qu'utilise le narcotrafic, c'est la violence. tout comme le capitalisme. Et donc, il y a véritablement ce lien à faire. Et une fois qu'on a dit ça, on doit adapter notre réponse. Moi, il y a 3 semaines, j'ai fait voter au Parlement européen une résolution qui a été signée du groupe de l'EFT, donc la France Insoumise, jusqu'au PPE avec François-Xavier Bellamy. Et ils ont accepté de signer cette résolution. Et dans cette résolution, on disait que l'Europe, dans ses accords de libre-échange, elle doit imposer aux pays avec qui on passe ces accords de libre-échange, de nous livrer, de nous extradier les têtes de réseau, d'accepter que ces personnes rentrent, qu'elles puissent être jugées, qu'elles puissent être tenues pour responsables de ce qu'elles ont fait, du sang qu'elles ont fait couler dans les rues françaises. Et donc voilà, il y a vraiment cette approche globale, je pense, à avoir, et puis de resituer les choses dans la guerre contre le narco, d'arrêter de venir cibler les petits en pied d'immeuble, et à un moment de s'occuper de la source du problème. Parce que quand on est ministre, qu'on dit on est dans une guerre face au narcotrafic, dans cette guerre-là, on ne va pas attaquer les mamans comme ils sont en train de le faire, en disant on va enlever les logements sociaux des mères de dealers, on va leur enlever les allocations familiales. Ça raconte des choses terribles sur notre pays. Ça raconte des choses terribles sur l'humanité de ce pays. Ça raconte des choses terribles sur notre société. Et ça raconte surtout la lâcheté. La lâcheté parce que on n'est pas capable d'aller mener la guerre aux grosses têtes de réseau qui ont les armes, qui ont tout. Par contre, on est capable de venir attaquer des mères qui ne sont pas armées, attaquer des mères qui essaient de s'en sortir comme elles le peuvent. Et donc, ça raconte une vraie lâcheté du système politique face à la guerre de la drogue.
Est-ce que c'est parce que tu as ce discours qui s'en prend aux têtes de réseau, aux grands capitalistes du trafic de drogue, aux grands profiteurs. Est-ce que c'est parce que tu les cibles eux que tu es aujourd'hui sous protection policière ?
Mais il faut entendre ma parole. Moi, jamais je ne dis que les jeunes qui sont dans ces réseaux, jamais je ne dis que ceux qui sont à Marseille, que ceux qui sont en France sont les responsables de quoi que ce soit.
Non, c'est bien
ces jeunes-là, mais je sais que toi tu l'as compris, mais eux ne le comprennent pas véritablement, parce que ceux qui ont donné l'ordre sont effectivement à des kilomètres d'ici, en l'occurrence un d'entre eux qui est en prison, mais ceux qui ont exécuté la tâche, ceux qui ont assassiné mon petit frère, c'est des jeunes que je défends. C'est des jeunes à qui je dis, en fait, il faut leur donner une seconde chance. En fait, ces jeunes-là, il faut leur proposer un emploi, il faut leur proposer une formation. Donc, je pense qu'ils n'ont pas véritablement compris le fond de ma parole. Et puis, jusqu'à présent, moi, je suis toujours entré dans toutes les cités de Marseille sans aucun souci. Partout où j'allais, des jeunes me disaient, mais en fait, on respecte ton travail. Parce que toutes les mamans de victimes qu'il y a eu depuis 2020, depuis l'assassinat de mon frère, il n'y en a aucune chez qui je ne me suis pas déplacé. Il n'y en a aucune chez qui je ne suis pas allé présenter des condoléances, chez qui je n'ai pas déployé le dispositif d'accompagnement des familles de victimes qu'on porte avec l'association Conscience. Il y avait juste une question hyper intéressante sur la politique de répression contre le trafic.
Est-ce que vous pensez que la politique nationale des gouvernements de répression contre le trafic est efficace ou qu'ils instrumentalisent cela pour servir leur propagande ? Je l'ai relu pour que tu puisses prendre un petit peu de souffle. Tu as un petit peu d'eau si tu as besoin. Voilà.
Amine est de plus en plus lucide, merci. J'espère que je l'étais avant. Non, sur la question de la répression et sur la question de la prohibition, il y a une véritable anomalie, une véritable contradiction en fait. On vient nous expliquer qu'on mène la politique de prohibition la plus violente d'Europe et qu'on est pourtant, en termes de consommation, le premier pays européen en termes de consommation. Et donc ça montre l'inefficacité de cette politique de prohibition, ça montre l'inefficacité politique de répression qui ne mène nulle part. Et donc là-dessus, j'ai une position qui est très claire, en fait. Il faut qu'on entre dans la voie de la légalisation du cannabis, puisqu'aujourd'hui, le cannabis, c'est la drogue qu'on connaît le mieux. C'est la drogue qui est la plus consommée, avec près de 300 tonnes. C'est pas celle qui rapporte le plus économiquement au réseau, ça c'est la cocaïne, mais qui représente en termes de consommation 20 tonnes. Entre 300 et 20 tonnes, il y a quand même des marges. Et puis la voie de la légalisation, elle va pouvoir nous permettre plusieurs choses. La première, de mener de vrais plans de santé publique. Parce que moi, ce n'est pas parce que je suis favorable à la légalisation du cannabis que je suis pour les drogues. Je sais ce que les drogues ont de néfaste sur la santé, sur le corps humain, sur les gens. Donc je ne suis pas du tout pro-drogue. Au contraire, je suis contre les drogues. Mais je dis juste que la légalisation du cannabis, elle doit arriver. On doit avoir un encadrement sur cette gestion des drogues. Ça va nous permettre d'avoir un peu d'avance sur la question de la santé publique. Et surtout, et là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Ça va surtout pouvoir nous permettre, à un moment, de pouvoir mener de vraies politiques de sensibilisation, de vraies politiques de campagne de prévention. Et là, par contre, c'est Éric Dupond-Moretti, quand il était garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui le disait. Il disait « Oui, aux bobos et aux bourgeois des centres-villes, je veux dire que votre joint a un goût de shit. » Le jour où on aura légalisé... 200, pardon, autant pour
votre
moi.
Votre joint à goût de shit, oui.
Oui, un peu, c'est logique. Là, j'étais pas très lucide pour le coup. Non, mais il disait un goût du sang. Et là-dessus, le jour où on aura légalisé le cannabis, le jour où il y aura deux drogues sur le marché, une légale, une encadrée, où les gens savent ce qu'ils fument, où les gens savent à quoi sert l'argent qui est utilisé après avec, etc., et qui font le choix de continuer à aller vers la drogue illégale, là, moi, je serais d'avis à ce qu'on leur dise « Vous êtes responsable ». Vous êtes au même titre que les meurtriers, que mes frères, responsables. Parce que malgré le fait qu'il y ait une drogue légale, une drogue encadrée, vous continuez de faire le choix d'aller vers la drogue illégale. Et là-dessus, oui, on pourra taper sur les consommateurs, on pourra aller voir ceux qui s'obstinent à aller dans les réseaux. Mais comment aujourd'hui on peut attaquer des usagers? Comment aujourd'hui on peut attaquer des personnes malades, des personnes dépendantes? Dans le livre que tu citais tout à l'heure, Marseille essuie tes larmes, je parle d'une société sous dépendance. Je m'interroge sur le fait de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la société n'est pas en capacité de faire la fête, de faire l'amour sans tirer un rail de coke. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas en capacité, lorsqu'ils sortent du travail ou de leur cours, de se jeter tout de suite sur un joint de shit? Et donc on est réellement dans une société sous dépendance. Et là-dessus, ça a le mérite de poser toutes les questions de santé publique qui doivent être posées.
Est-ce que tu as parlé de ces questions-là, de légalisation du cannabis? Donc on est bien d'accord, tu parles pas de dépénalisation, mais de légalisation. C'est-à-dire que de l'organisation, finalement, de la vente et de l'achat du cannabis. Est-ce que tu en as parlé avec ceux que tu désignais d'une certaine manière comme les prolétaires des trafics de drogue? Qu'est-ce qu'ils deviendraient dans ces cas-là? Ceux qui vendent aujourd'hui du shit et qui, tu le disais toi-même, finalement, ne gagnent absolument pas, enfin, sont moins payés qu'au SMIC si on calcule le taux horaire. Hein. Ce n'est pas du tout les chiffres qu'on entend sur ces news. Mais n'empêche que cette somme ridicule, bah, ça leur permet de tenir un petit peu. Donc, dans ces cas-là, comment tu ferais?
C'est pour ça que je disais que la légalisation, ce n'est pas la solution miracle. Quand on m'interroge, moi, dans la presse, je ne réponds jamais « il y a une solution miracle ». Il y a un bloc de solutions à apporter. Je parlais de l'action de l'Europe. L'Europe, elle doit aller chercher les têtes de réseau à l'étranger. On doit avoir des politiques sociales, des politiques d'aménagement du territoire dans les quartiers, des politiques où on remet l'habitant au cœur des décisions, notamment sur les questions de rénovation urbaine, sur les questions d'aménagement de l'espace, etc. Et on doit surtout mener en parallèle de la légalisation du cannabis des vraies politiques d'insertion professionnelle. Créer de l'emploi, redonner des perspectives économiques. Quand moi, je défendais, lorsque j'ai été candidat aux élections législatives à Marseille, où j'ai été au second tour face au Front National dans les quartiers nord de Marseille, battu de quelques points par la députée RN, elle avait fait 50 et quelques, et j'avais fait 49-0-30, donc elle m'a battu à 0,70 points, et que je défendais l'augmentation du SMIC, c'est pas le plaisir de dire faut défendre le SMIC comme ils le font tous. Non, c'est de redonner du sens au travail, c'est de redonner de la valeur au travail, c'est de redonner l'envie aux gens de pouvoir travailler, mais surtout de pouvoir vivre de leur travail, de pouvoir vivre dignement de leur travail. Et donc, il y a un véritable enjeu, je pense, à côté de la légalisation du cannabis, de travailler sur de l'insertion professionnelle, de travailler sur des formations, et puis même d'accompagner ces jeunes qui voudront créer des entreprises, qui voudront créer des sociétés où ils pourront dealer légalement, de les accompagner là-dessus. La loi italienne, elle parle beaucoup du statut de repentir, comment on fait pour accompagner ces personnes qui veulent se repentir, ces personnes qui veulent... finalement se réinsérer et tourner le dos à leur passé.
Question à nouveau du chat. Quel était le taux de participation dans le quartier nord, là où tu as perdu d'un cheveu face au RN ?
Bah, le taux de participation n'était pas faible, parce qu'il y avait la vague NFP, parce qu'il y avait un enjeu aux dernières législatives qui était important. Moi, dans le Sud, j'étais dans la circo où il y avait le plus de primo-votants, de jeunes qui venaient voter pour la première fois, parce qu'on a fait une campagne de terrain, parce que les gens me connaissent, parce que pour un tas de raisons, et parce que la vague NFP. Et donc les taux n'étaient pas faibles, ils n'étaient pas non plus énormes. Sur une circo de 100 et quelques mille habitants, on avait au second tour, on avait 22 035 voix pour moi, 22 800 pour la députée RN, donc près de 45 000 votants. Donc ce qui fait pratiquement la moitié de la circonscription, ce qui fait des taux de participation entre 40 et 50%.
Tu as parlé tu as fait une échelle, tu as parlé du capitalisme comme l'archétype finalement du trafic de drogue et inversement. Tu parles de légalisation et ma question au départ c'était: est-ce que tu sens qu'il y a une évolution dans le discours autour des drogues ? Là, ce que tu viens de dire, tu as pu le dire parce que tu avais 20 minutes. J'imagine que c'est quelque chose que tu ne peux pas dire en deux minutes sur un plateau de télévision, parce que c'est totalement inaudible, non ?
Tout à fait, parce que là on a le temps, on peut discuter. Et d'ailleurs, merci de.
Je t'en prie, je t'en prie. Non, c'est pas pour ça que je disais ça.
Mais... Non, mais faut le souligner. Mais bien sûr qu'ailleurs c'est plus compliqué. Après, il y a des plateaux où j'arrive à placer des choses, à dire des choses. On a sorti un documentaire avec la chaîne parlementaire, ouais. LCP, Marseille des larmes au combat. J'ai sorti cet ouvrage, Marseille essuie tes larmes. Dans lequel je reviens beaucoup sur ces notions, sur le silence des pères, sur la question des quartiers, etc. Donc, donc il y a un véritable enjeu, je pense, de créer ces espaces de dialogue. Et d'ailleurs, c'est ce que je veux faire. Après les élections municipales, on va monter l'Association nationale des maires de France qui agissent contre le narcotrafic, parce que tout le monde, aujourd'hui, dit que la drogue, c'est un enjeu national, c'est un enjeu majeur, blablabla, de l'extrême droite jusqu'à gauche toute. Il faut qu'on crée ces espaces, il faut qu'on se dote d'espaces où on peut tenir ces débats, des espaces où on peut avoir ces échanges, où on peut avoir ces débats qu'on n'arrive pas à avoir ailleurs. Dans les institutions, le débat de la légalisation, il est très fermé, très restreint, et on n'arrive pas à imposer ce débat à l'ordre du jour. Donc il faut qu'on se dote d'espaces pardon, la question m'a perturbé, des maires.
Des maires, parce qu'en fait, effectivement...
Non, moi je parlais des maires.
Oui, tu parles des maires, des gérants des municipalités.
Tout à fait.
Des maires et des mairesses, on va dire, voilà. C'est comme ça. Et non pas des maires de famille.
Non.
Tu veux...
Il faut arrêter de faire porter les choses sur le dos des maires de famille.
Non, mais je
sais que c'était pas la question, mais juste, les gens disent beaucoup, oui, mais la responsabilité des mamans, etc., ouais. Et c'était pas la question, là, je sais bien. Mais les mamans, elles portent tellement... On parle beaucoup de mamans qui vont pas, de mamans défaillantes, de familles défaillantes, mais on parle pas de ces milliers de familles qui vont bien, de ces milliers de familles qui ont jamais eu de problème avec la justice, de ces milliers de mamans qui cumulent deux emplois, qui se lèvent le matin avant tout le monde, qui vont faire deux jobs et qui rentrent après s'occuper de leur enfant, et de ces mères-là, on n'en parle jamais. Et moi, vraiment, la colonne vertébrale de mon engagement, c'est les mères, les mamans, qui sont finalement le pilier, qui sont le dernier rempart dans ces quartiers, et à qui, si ce soir on peut rendre hommage à quelqu'un, c'est bien aux mamans de ces cités à qui je voudrais qu'on rende hommage.
Donc, tu es en train de constituer une association de maires luttant contre les narcotrafics, association qui sera œcuménique, si j'ai bien compris, gauche-droite. Est-ce que, sur ces questions-là, tu penses qu'il y a des différences ou pas ?
Des différences
De vision des choses entre des maires de gauche et des maires de droite, où c'est le répressif qui prend le dessus, où ceux qui vont venir te rejoindre sont là pour réfléchir au-delà du répressif.
Bah, y a de tout. À droite, il y a des gens qui aujourd'hui sont pro l'ouverture débat de la légalisation du cannabis. J'ai des maires de droite qui me disent, en fait, nous, on est pour la légalisation parce qu'au moins, ça pourrait nous permettre de mieux sanctionner, de mieux suivre, de mieux contrôler, etc. Donc, en fait, ça dépend. Et à la fois, bien sûr que leur discours du tout répressif, il y a un très beau portrait là sur votre porte. et cette personne est celui qui a démantelé la police de proximité. Moi, j'en veux terriblement à ce personnage.
Nicolas Sarkozy. Sur la porte, le portrait. Portrait officiel de la République,
voilà.
Du temps où ce monsieur ne portait pas de bracelet.
C'est clair.
Voilà.
Non, mais c'est clair, il faut le rappeler. Et donc voilà, en fait, il y a leur réponse qui ne va pas, parce qu'à la fois, ils sont sur un discours de tout répressif, etc. Et bon, quand on condamne Nicolas Sarkozy, ils se lèvent tous en disant non, c'est trop répressif, là, il ne faut pas trop. Hier, vous étiez tout répressif, aujourd'hui, c'est plus répressif. Bon, finalement, c'est sévérité pour tous et impunité pour eux, et ça ne peut pas marcher comme ça. Et puis, le discours du tout répressif qui ne fonctionne pas, et à l'inverse, et il faut aussi le dire, à gauche, Boboland, là, qui viennent pleurer quand il y a la loi narcotrafic sur l'article 8, parce qu'on va pouvoir aller fouiller dans leur téléphone, sur Telegram, etc., au lieu de se lever en disant c'est pas normal qu'on va expulser les mères de victimes de leur logement, c'est pas normal que dans cette loi il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Enfin, en fait, faut aussi qu'on équilibre notre vocabulaire, faut aussi qu'on équilibre notre façon de mener les combats. Je parle de nous à gauche, faut aussi qu'on sache quel est notre ennemi, qu'on sache quel est notre objectif. Quand j'entends des députés de gauche parler des conditions carcérales des têtes de réseau et des meurtriers de mon petit frère, franchement, les conditions carcérales de ces personnes-là, c'est pas vraiment ce qui intéresse les gens en matière de lutte contre le narcotrafic. Bien sûr que le milieu carcéral, bien sûr que la question carcérale, elle est primordiale sur des gens qui n'ont pas commis des crimes majeurs, bien sûr qu'il faut l'évoquer, mais bon, venez pas nous prendre la tête sur les têtes de réseau, sur les meurtriers qui ont tué des gens dans les quartiers nord, au lieu de nous parler des sujets qui nous concernent. Et personne, aucun député de gauche ne s'est levé pour dire non, c'est pas normal qu'on expulse des familles de leur logement. Aujourd'hui, il y a une loi qui permet aux préfets d'expulser les mamans de leur logement quand elles ont un enfant qui est dans le narcotrafic ou qui a récidivé, etc. Et personne ne s'est levé pour ça. Donc je pense qu'il faut aussi qu'à gauche, on comprenne où sont nos combats, où sont les luttes qu'on doit mener, et qu'on se remette bien ça en tête.
Quand tu défends le retour de la police de proximité, est-ce que tu le fais pour donner des gages, on va dire, sécuritaires à ceux qui t'en demanderaient, ou est-ce que tu es intimement convaincu que la police de proximité a son intérêt, oubliant peut-être qu'elle avait aussi un rôle de renseignement, de mouchardage, de surveillance de la population qui n'était pas forcément sensationnelle? Question, est-ce que c'est une conviction de ta part, ou est-ce que c'est par politique, au sens où tu voudrais rejoindre le plus de paroles possible, que tu prônes le retour de la police de proximité?
Non, c'est parce que moi j'y crois, en la police de proximité. Je crois en cette police qui connaît les jeunes, qui connaît les quartiers, cette police qui n'est pas formée pour venir faire du chiffre ou taper sur n'importe qui, et qui, à l'inverse, ne se fait pas taper dessus. Je crois en cette police qui, à Frévalon, a existé au pied de mon immeuble, avec un commissariat de police qui était ouvert jusqu'à l'avènement de Nicolas Sarkozy. Cette police qui ne posait pas de problème, qui n'avait pas de problème d'ailleurs, et qui, dans ma cité, cohabitait à juste titre avec les habitants, et sans que ça ne pose aucun souci. Et puis non, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est notamment chez certaines personnes à gauche qui nous parlent de liberté individuelle lorsqu'il s'agit de vidéosurveillance, etc., des caméras de vidéoprotection, etc. Et ces personnes-là sont les premières à demander des caméras devant leur pavillon fermé avec les grands portails des petites ruelles qui sont privatisées à Paris. Et quand il s'agit de mettre des caméras pour protéger les gens ailleurs, ils sont contre et ils parlent de liberté individuelle. Je trouve ça un peu poussé quand même.
Pour toi, quels sont les plus grands défis dans le combat que tu mènes? C'est de convaincre la gauche, c'est de convaincre la droite, c'est d'établir un dialogue avec les victimes de tout ça, les populations, les quartiers, c'est de tordre le cou aux clichés véhiculés par les médias. C'est quoi les défis qui sont devant toi? Alors Amine est en train de regarder le chat, c'est pour ça qu'il ne répond pas tout de suite, mais si tu veux répondre au chat, tu peux le faire. Et moi, j'ai
une question. Il y avait un truc sur le collectif des mères, tout à fait. Nous, on a créé avec Conscience le collectif des mamans de victimes qui accompagne ces mères de victimes, qui se mobilisent, qui ont fait plusieurs réunions, qui ont fait plusieurs actions pour dénoncer et pour porter des choses. Mais oui, enfin, il y a l'enjeu, je pense, qu'il est de créer un espace où en fait on arrive enfin où on arrive enfin à apporter une parole crédible, je pense. Et quand je dis on, c'est la gauche, mais pas que, en fait, parce que cette question, elle est vraiment transpartisane. Comme j'ai porté au Parlement européen cette résolution qui a donné la ligne que l'Europe va suivre en matière de lutte contre le narcotrafic, et j'espère que ça découlera sur des directives européennes qui sont les lois européennes, et non pas que sur une résolution qui n'a pas de caractère législatif. Et donc, il y a un véritable enjeu, je pense, de rassembler le plus possible autour de cette question, et c'est vraiment ce que je veux faire avec l'Association nationale des maires et mairesses qui agissent contre le narcotrafic.
Alors, si j'ai bien compris, en fait, tu es un peu en tournée, là. Tu profites, si je puis dire, des municipales pour essayer d'aller voir des maires ici ou là, pour les amener à te rejoindre, non, c'est pas ça?
Non. Là, okay. Je fais une tournée pour aller soutenir les candidats de gauche aux élections municipales, puisqu'il y a un combat électoral qui est mené. Je n'ai fait des tournées que dans des mairies de gauche pour le moment, et j'ai appelé à voter pour ces candidats-là d'Union de la gauche. Et après, il y aura un second temps après les municipales, c'est pour ça que cette association n'est pas créée. Et après les municipales, j'irai chercher partout, même si c'est des maires de droite, partout, des personnes qui veulent agir contre le narcotrafic, à l'exception bien évidemment de l'extrême droite qui ne pourront assister à ce moment.
Bien sûr. Je voudrais revenir sur ton parcours, puisque si j'ai bien calculé, tu démarres à l'implication citoyenne à 17 ans avec une association qui s'appelle Conscience écologique au départ, qui entendait mettre la question climatique dans les quartiers, c'est bien ça? Et ça va devenir l'association Conscience tout court après la mort de ton le premier assassinat, de ton premier frère. C'est ça?
Tout à fait. Tout à fait, parce qu'au début, l'action de conscience, c'était effectivement ces enjeux écologiques dans les quartiers, en expliquant que l'écologie, c'était notre affaire à tous, que dans les quartiers, on pouvait parler des questions d'alimentation, on pouvait parler de la rénovation thermique des bâtiments, on pouvait parler d'un tas de choses. Et c'est un peu ce qu'on a tenté de faire pendant des mois, puisqu'on a distribué des colis alimentaires, on a organisé des opérations de nettoyage, on a travaillé sur de l'accès aux droits avec des permanences. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était le Parti communiste qui me prêtait des locaux pas loin de mon quartier et qui nous ont permis de mener ces permanences où on avait des jeunes qui venaient de plusieurs lycées de Marseille avec des ordinateurs et qui aidaient des mamans, des papas du quartier à faire leurs démarches administratives. Et après la première frappe qui m'a tapé et qui m'avait déjà mis à terre, la perte de mon premier frère, on a décidé d'agir autrement avec conscience.
Ton premier frère qui est mort dans des conditions absolument épouvantables, si j'ai bien compris, il était lié à ce que tu dénonces aujourd'hui, c'est bien ça?
Mon grand frère Brahim, effectivement, était tombé dans les réseaux très jeunes, même s'il n'avait pas monté tous les grades et tous les échelons, était effectivement tombé dans le narcotrafic.
Est-ce que je peux te demander si tu sais pourquoi, pour lui, le métro, qui t'a permis à toi de faire une forme d'extraction sociale grâce à ta mère qui t'a emmené suivre le collège, le lycée, en dehors de l'écosystème dans lequel tu étais. Est-ce que tu sais pourquoi, pour ton frère, ça n'a pas fonctionné?
Parce que, déjà, Dieu merci, dans les quartiers, pas tout le monde tombe dans les trafics de drogue.
Bien
ça serait
sûr.
Compliqué, parce que
bien
sinon,
sûr,
on aurait
sûr.
Une véritable milice, une
Mais
véritable
non,
armée.
Bien sûr.
Et les jeunes de narco seraient plus nombreux que les forces de l'ordre et que n'importe qui. Non, parce que je pense que c'est une question de personne, en fait, une question de caractère, une question de sensibilité. Les jeunes qui tombent dans le narco, c'est parfois des jeunes qui se sentent à l'écart, se sentent en dehors de fratrie, se sentent en dehors de la société, se sentent marginalisés, et à juste titre parfois, et qui ne trouvent pas leur place, qui ne trouvent pas de sens aussi à ce qu'ils font, à ce qu'ils peuvent porter, à ce qu'ils peuvent dire, à comment ils peuvent vivre. Et donc je pense que c'est véritablement une question de personne et de sensibilité, de caractère, qui fait que dans une fratrie, il peut y en avoir un qui tombe et pas les autres.
Bien sûr. L'association Conscience, elle existe sur Marseille et ailleurs, ou que sur Marseille?
Ah non, c'est une situation nationale. Aujourd'hui, on est dans un enjeu national, dans un enjeu international. Il faut regarder ce qui se passe en Guadeloupe. Ces milliers de personnes, ces centaines de personnes qui décèdent en Guadeloupe, ces personnes qui deviennent des mules, qui transportent de la drogue dans leur corps et qui décèdent par la suite. Donc, non, c'est un fléau plus que national. D'ailleurs, les groupes mafieux de Marseille ont des antennes partout en France et se sont même installés, imposés dans les rues de Bruxelles en Belgique et commencent à tisser des liens européens.
D'accord. Certains font dans le chat des comparaisons en disant oui, il y a le narcotrafic, les narcotrafiquants, mais il y a aussi les petits arrangements, il y a aussi le côté mafieux. Que ce soit à Marseille ou ailleurs, il ne s'agit pas de porter la critique sur la ville Marseille. Est-ce que tu penses qu'effectivement on peut lier les deux ou il y a une spécificité autour de la narcocratie ?
La question, c'était...
Est-ce qu'il y a une spécificité entre les... Je vois quand même que le chat te perturbe. Entre les narcotrafics et la mafia, ou les petits arrangements, ou l'état de droit qui recule ici ou là, est-ce qu'on peut faire une distinction ou est-ce que, finalement, les narcotrafiquants profitent d'une généralisation de
non,
de
ben,
ça.
Ça fait justement partie de la narcocratie, du pouvoir qu'ils ont d'influer, de corrompre, de menacer, venir corrompre au tribunal judiciaire de Marseille deux salariés, deux jeunes filles qui avaient 24 ans et 26 ans, qui ont sorti des dossiers de trafiquants pour le compte de la DZ Mafia, qui ont été condamnés, etc. La Cour des comptes, aujourd'hui, la Cour des comptes, qui est la juridiction suprême en matière de oui. comptes publics, d'argent, etc., elle alerte, elle a sorti un dossier d'alerte en disant attention, le taux de corruption à cette élection municipale, il est à son paroxysme, en fait. Il est à un niveau qu'on n'a jamais connu. Et on risque d'avoir des liens entre les narcotrafiquants qui veulent influer aussi sur l'élection municipale. Donc tout ça, ça fait partie de ce phénomène que j'appelle la narcocratie.
Alors, le chat s'emballe autour du PS, autour de Payan. A-t-on déjà parlé des magouilles de Payan ? Alors, magouilles, je ne sais pas, mais effectivement, Blast, aujourd'hui, a révélé que le plan école du maire Payan était dans le viseur de la justice. Le plan Marseille en grand d'Emmanuel Macron tangue, et pas qu'un peu. Écrit Blast aujourd'hui même, son cœur, la rénovation des écoles délabrées après des décennies d'abandon, vitrine du mandat du maire sortant Benoît Payan, dont tu es colistier, se transforme en bombe judiciaire, démission en série à la société publique qui gère le chantier, soupçon de manipulation et de favoritisme dans les marchés publics, pression politique, dissimulation troublante. Le directeur de cabinet du président de la République, qui est donc l'ancien préfet, lui-même a dénoncé les faits auprès du parquet de Marseille, qui a ouvert une enquête.
C'est confirmé que l'enquête est ouverte ?
Ah, tu vas pas à 22 ans commencer comme
ça. Non, c'est une vraie question.
Pour l'instant, a ouvert une enquête. Si. C'est ce que dit Blast, annonce que
l'enquête. Ce matin, l'enquête n'était pas ouverte, mais bon, elle peut être ouverte après.
Alors, c'est, moi, tu rappelles mon âge.
Mais l'enquête n'était pas ouverte ce matin, vraiment. Je me suis renseigné.
Ce matin, mais là, visiblement, cet après-midi.
Je me suis renseigné et j'ai vu l'article de Blast hier soir. D'ailleurs, je connais. Les journalistes qui ont écrit cet article. Non, là-dessus, je pense que si vous voulez des réponses sur ce sujet-là, il faudra demander au maire de Marseille, aux élus en charge du plan école de le faire. Moi, la seule chose que je peux dire là-dessus, c'est si le plan Marseille existe aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui sont partis chercher cet argent. Et en fait, cet argent, il tombe pas de nulle part. On a l'impression que cet argent nous a été livré comme ça sur un plateau. Et pas du tout. C'est de l'argent que Godin avait mal géré, qui avait refusé Godin pendant des années. Que la majorité du printemps marseillais est partie chercher, est partie arracher pour Marseille. Et moi, ce plan, j'en ai vu la traduction concrète. À Frévalon, mon école, l'école de mon quartier, elle a le plafond qui était effondré depuis des années et qui a été refait avec cet argent. Les bâtis scolaires que j'ai pu visiter ont été refaits avec cet argent. Et Marseille en grand, pour moi, c'est ça. C'est cet avenir qu'on propose quand on parlait d'école tout à l'heure dans la lutte contre le narcotrafic. Il y a aussi cet enjeu de dignité. Comment on fait ? Et pendant longtemps, moi, j'ai mené un combat et je me suis trompé. Je disais qu'à Marseille, on a le lycée Thiers. Le lycée Thiers, en 2023, c'était le premier lycée de France en termes de notation. Dans le classement des lycées de France, c'était le premier. Et je disais, en fait, il faut qu'on ait des transports qui permettent à tous les jeunes des quartiers d'aller au lycée Thiers. Et je me suis trompé, parce qu'il faut que tous les lycées de Marseille deviennent des lycées Thiers. Il faut que tous les lycées des quartiers deviennent des lycées Thiers, que tous les lycées des zones rurales deviennent des lycées Thiers. Et c'est pour ça que je pense véritablement qu'il y a cet enjeu, en fait, de retravailler la dignité dans les écoles, de travailler sur ce genre de plan qui puisse permettre de rénover ces écoles partout et remettre, finalement, l'éducation. Nelson Mandela, il disait l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et ça, moi, j'y crois véritablement.
On voit bien que tu crois, on voit bien ton grand cœur, on voit bien tes convictions et ton courage qui forcent absolument le respect. Mais néanmoins, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des moments, je ne te demande pas des noms, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments, avec tout ce que tu traverses, tu n'es pas découragé par ce genre d'affaires qui éclatent, ou par exemple, dans un autre genre, Renaud Muselier, l'inénarrable Renaud Muselier, qui s'est permis de dire le 29 décembre que tu étais victime du syndrome de Stockholm, puisque tu as rejoint la liste du maire sortant de Marseille, alors que, dit Renaud Muselier, que c'est quand même pendant son mandat que ses deux frères ont été assassinés. Le silence, là, pour toute réponse, tu peux, hein ?
Oui, le silence veut beaucoup dire, effectivement, mais la politique, elle ne doit pas tout permettre. La politique, elle ne doit pas permettre à un président de région en fonction, un président de région qui a soutenu Nicolas Sarkozy, un président de région qui a accueilli Nicolas Sarkozy récemment à Marseille, il l'a fait rentrer dans l'hémicycle avec un... je ne sais pas s'il avait le bracelet électronique ou pas, mais voilà. Et ça dit long sur les amis de Renaud Muselier. Un président qui aujourd'hui, de région qui aujourd'hui règle ses comptes, en fait, parce qu'il m'a proposé d'être sur la liste de droite et que je lui ai répondu que mes convictions et mes valeurs n'étaient pas là-bas. Il m'a d'ailleurs proposé beaucoup de choses pour me demander de rejoindre cette liste.
Non.
Donc les propos de Renaud Muselier sont assez indignes quand il m'a proposé d'être numéro 4 sur la liste de Martine Vassal et qu'il a tout fait pour me convaincre d'y être. Et je trouve ça assez indigne qu'hier, j'étais pas atteint du syndrome de Stockholm, donc j'étais bien pour sa liste et qu'aujourd'hui, puisque j'ai décidé d'aller dans la liste où mes valeurs sont représentés dans la liste de ma famille politique, puisque j'ai été candidat des élections avant les municipales, et je trouve ça tout juste indigne de sa part. Après, voilà, ça le caractérise, ça le représente. Moi, je balais tout ça, et mon seul ennemi, c'est le narcotrafic.
Et c'est parce que tu as cet ennemi que tu peux balayer. Ça te donne cette force-là.
Non, c'est parce qu'à 22 ans, il y a un contrat de 50 000 euros sur ma tête. Il y a des gens qui veulent me tuer. Il y a un groupe mafieux qui essaye de me trouver. Donc moi, je ne sais pas si dans 2 ans ou 3 ans, je suis là. Parce que mon petit frère a été tué à ma place pour rien. Donc je suis peut-être le prochain. Et pour ça, je n'ai pas le droit de m'arrêter sur ces futilités, de m'attarder sur ce genre de choses. Moi, j'ai un combat, j'ai une parole à porter, j'ai quelque chose à faire. Et j'irai jusqu'au bout. Je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas face au narcotrafic. Parce que beaucoup parlaient, et ça il faut le dire aussi, beaucoup parlaient parce qu'on a organisé une marche blanche en la mémoire de mon petit frère Mehdi, où il y avait des milliers de personnes qui se sont levées.
Absolument.
Et tous les plateaux de télé, CNews, BFM, parlaient de l'absence des rappeurs, etc. Ok, soulignons leur absence, merci. Mais personne n'a parlé de l'absence des auteurs. Personne n'a parlé de l'absence des grands défenseurs de la liberté d'expression, de celles et ceux qui se sont levés pour Boualem Sansal en criant « liberté d'expression », etc. Ces gens-là, ils ne sont pas venus à ma marche. Les auteurs, les libraires, moi, je ne les ai pas vus se lever et dire « un collègue, Amine Kessassi, auteur ». J'ai écrit un livre, est atteint, la liberté d'expression est atteinte, personne n'en a parlé. Et donc moi je trouve qu'il y a vraiment un vocabulaire, une vision des choses qui est assez hypocrite.
Tu veux dire que c'est une assignation raciste, seuls des rappeurs pourraient venir dans ton entourage, d'où tu viens, qu'il n'y a pas autre chose que ça comme perspective.
Ouais, c'est peut-être ça. Une insinuation raciste et elle est à combattre. Il y a aussi mon cercle social dans lequel je vis, il y a aussi mon âge qui joue, et ces gens se rendent indignes de tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut balayer ça, et le combat est assez long, assez compliqué, pour en plus se rajouter ce genre d'épines sur la route.
Où est-ce que tu sens les leviers les plus efficaces ? Est-ce que c'est l'associatif? Est-ce que c'est le politique? Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est le médiatique?
Il y a toutes les sphères dans lesquelles on peut agir et chacun agit à son échelle comme il peut le faire, etc. Moi, je suis un fervent défenseur de la société civile, du monde associatif, parce que je suis né dans ce système-là. Je suis né dans le monde associatif. Je suis né dans des assos. J'ai moi-même fondé mon asso. Et parce que je viens de ce monde-là, je connais les limites du monde associatif. Et la réponse associative, c'est une réponse au cas par cas. On répond à des situations particulières, et c'est loin malheureusement d'être assez doté de moyens pour répondre à tous les cas auxquels on voudrait répondre. Et surtout, c'est loin d'un point de vue de moyens de répondre aux choses de façon systémique, de façon systématique. Et c'est pour ça que je pense qu'on doit investir la sphère politique, politique principalement, pour mener ce combat.
Alors, il y a quelques questions qui sont politiciennes, on pourrait dire, mais comme elles reviennent, je vais la relayer. Pourquoi avoir choisi de t'associer au PS plutôt que à la France Insoumise ?
Je peux y répondre sans aucun souci. Parce que j'ai une sensibilité qui est celle de la famille politique dans laquelle j'ai décidé de me mobiliser, de me battre, les écologistes. Parce que je suis, comme j'ai pu être, très critique sur des points assez satisfait du bilan du printemps marseillais. Je pense qu'il y a encore des choses à faire encore plus loin. On a dévoilé la liste des propositions que je vais porter, qu'on va porter avec le collectif du printemps marseillais. Mais parce qu'aujourd'hui, je pense que le seul à être en capacité à battre la route au Front National, à être un rempart, à diriger cette ville, c'est l'actuel maire de Marseille. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me mobiliser à ses côtés sur la liste du printemps marseillais.
Admettons, vous remportez la municipalité, tu deviens adjoint peut-être au maire. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Qu'est-ce que tu voudrais faire ? Quelles sont les urgences ?
Moi, ce que je pense, c'est que la réponse, elle doit être vraiment transversale. Il faut vraiment qu'on ne prenne pas ces mauvais réflexes de dire « bon, dès qu'on arrive, on règle tout de suite le truc sécurité ». En fait, il faut qu'on prenne tout de suite à bras-le-corps toutes les questions et qu'on se mette dans notre feuille de route deux choses. Un, qu'est-ce qu'on fait là maintenant tout de suite pour répondre à l'urgence ? Il y a une urgence, il y a un enjeu, il y a quelque chose maintenant. Et deux, comment on répond aux choses de façon systémique, mais plutôt sur du long terme ? Comment dans 10 ans on a transformé les quartiers ? Comment dans 10 ans on fait en sorte que les jeunes des quartiers ne soient plus dans la seule logique que quand on est né dans une cité, les seules issues possibles c'est rappeur, footballeur ou dealer ? Et comment on arrive à casser tout ça, casser toutes ces logiques qui existent ? Et donc je pense là-dessus qu'il y a un véritable enjeu de saisir ces questions à bras le corps. Après voilà, c'est le maire qui distribuera les délégations, les adjointures, les portefeuilles des uns et des autres et on verra quelle sera l'adjointure sur laquelle je vais être appelé à me mobiliser.
Mais si c'est délicat de t'interviewer vu les menaces qui pèsent sur toi, je veux pas trop te rentrer dedans parce que voilà, t'as beaucoup à faire. Mais vu la situation que tu nous décris, la tienne, ce qui est arrivé à tes frères, le narcotrafic, est-ce que tu crois vraiment que des mesures de social-démocratie pourraient suffire alors que tu as eu tout à l'heure un discours frontal en expliquant que c'était du capitalisme et que c'était à ce titre-là qu'il fallait le battre, les écolos d'aujourd'hui, le PS d'aujourd'hui, ça paraît pas comme des porteurs de rupture. Or, ce que tu appelles de tes voeux, c'est quand même ça.
Oui, mais ça fait pas un programme. De dire on est anticapitaliste sur le... pardon, mais moi, vraiment, hein, tous ceux que j'ai vu crier on est anticapitaliste, ils l'ont fait depuis de beaux appartements et dans des beaux endroits de Paris. Et donc, crier ça résout pas la situation. Crier qu'on veut dégommer l'ordre social, qu'on veut dégommer les choses, qu'on veut plus une société qui tient sur ça, ça résout pas les choses. Le capitalisme, on le combat justement comme ça, en fait. On le combat avec des initiatives qui vont nous permettre d'aller sur cette route de la sortie du capitalisme, d'aller sur cette route de combattre la logique violente du capitalisme, du narcotrafic, etc. Et moi, je pense véritablement que les gens ont besoin de réponses là tout de suite maintenant et que ces réponses, elles passent par l'ouverture des antennes de police municipale qu'on va faire dans tous les arrondissements de Marseille. Elles passent par l'ouverture des maisons de santé qu'on va ouvrir dans tous les quartiers sur la prochaine mandature, par l'ouverture des guichets administratifs qu'on va ouvrir dans tous les quartiers. Elles passent par le doublement des effectifs de la police municipale que je suis en train de porter au sein du Printemps marseillais, elle passe par tout ça, en fait. Et ça, c'est des réponses concrètes, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment une distinction à faire entre les réponses urgentes, là, tout de suite, maintenant, qu'on pourrait qualifier de sociodémocrates, et après, des mesures à long terme, de comment on voit nos cités demain, comment on voit la vie de demain, de plus long terme et d'ordre plus structurel. Et en fait, c'est ça, aujourd'hui, qui manque à l'action politique. C'est cette perspective, c'est cette vision de global qu'on peut avoir sur du long terme.
Il nous reste 5 minutes parce que tu as d'autres, comment on dit, obligations. Et on ne va pas les annoncer pour des raisons de sécurité. Tu parlais tout à l'heure de ces familles endeuillées que tu vas voir dans les quartiers, de ces familles qui ont perdu un frère, un fils. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les mots des frères, sœurs et parents de ceux qui ont été abattus?
Bah, généralement, c'est les mères, c'est les mamans qui s'expriment le plus, et pas forcément les frères, les pères et les sœurs. Non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que la douleur des mères, elle est celle qui est le plus compliquée, celle qui est le moins descriptible, celle qui est le moins compréhensible, celle que personne ne peut comprendre. Et ces mères, ce qu'elles disent toutes, c'est... sur le coup, sur le moment, c'est leur peine, l'anéantisme dans lequel elles se trouvent, la souffrance dans laquelle elles sont, et toutes disent pourquoi mon fils, enfin, y a toujours cette incompréhension. Et moi, ces mères avec qui j'échange beaucoup, avec qui je travaille beaucoup, à qui je demande beaucoup d'ailleurs, puisque je leur demande toujours d'être finalement mes premières conseillères. Et quand j'ai décidé d'être candidat aux élections municipales, c'est elles que j'ai appelées d'abord pour leur faire part de cette nouvelle, pour leur demander aussi ce qu'elles en ont pensé avant de donner mon accord, d'annoncer publiquement ma candidature. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait cette longue série d'entretiens. Et ces mères, elles sont d'une dignité incroyable. Incroyable, parce que je sais que les sacrifices que ma maman a fait pour nous élever, mes frères et moi, je sais la force que ces mamans représentent. Je sais comment elles tiennent debout, en fait. Et c'est pour elle qu'on doit tenir debout.
On ne demandera jamais assez, t'inquiète Amine, on a le droit de le demander pour nos vies. Je ne sais pas ce que veut dire exactement Twitch Guild TV. Ça, c'est quand tu les as appelés, c'est une fois que le travail de deuil, si tant est que ce soit possible, est fait. Et là, il y a, puisque ton association s'appelle Conscience, il commence à y avoir à ce moment-là une prise de conscience politique de ces familles endeuillées. C'est ça qu'il faut comprendre.
Bah, bien sûr, ces familles, elles ont compris.
Et qu'est-ce qu'elles disent alors?
Bah, là-dessus, elles sont sur les lignes que je défends, sur les lignes sur lesquelles je me suis engagé, parce que c'est des lignes que j'ai construites avec elles, justement. Et ces mères, elles sont pour notamment beaucoup pour travailler sur ces enjeux de mixité sociale dans les quartiers, sur permettre, et toutes elles disent, notre point commun, c'est qu'on a tout à un moment voulu sortir de la cité pour permettre à nos enfants d'avoir une nouvelle perspective, pour permettre à nos enfants d'être ailleurs, d'aller à l'école ailleurs, etc. Et je pense que ça nécessite de leur redonner la parole à elles, en fait. Et on pourrait peut-être organiser un moment d'échange avec ces mamans. Et elles ont une parole très forte qu'elles portent mieux que moi, d'ailleurs.
Ah ben ça, si tu as le temps de monter un truc, nous on descend et on fait un débat avec les mères.
Avec plaisir.
Ah ouais, quand tu veux. Alors là... Quand tu veux, absolument. Il est 18h57, j'ai deux questions rituelles. La première, c'est qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de dire, c'est est-ce que tu as un conseil culturel à donner, un livre, un disque, un film, ça peut être un vieux machin, ça peut être un truc que tu as dans la poche, qui vient de sortir, ce que tu veux. Est-ce que tu as eu le temps de regarder, de...
Un des derniers films qui m'a beaucoup beaucoup touché, qui m'a beaucoup plu, c'est Les filles désir, que je recommande vivement en lecture. J'ai moins lu ces derniers temps de fait, mais j'ai beaucoup lu les poèmes de Mahmoud Darwish, un poète palestinien, militant palestinien, que je recommande vivement. Et un conseil culturel. De s'intéresser à tout et surtout de comprendre que la culture, c'est aussi ce qui ne sert à rien. Beaucoup pensent qu'on s'instruit, notamment les gens qui sont beaucoup militants, et vous là qui êtes dans le chat, on se renseigne renseigne beaucoup sur la sphère politique, sur les discours politiques, mais en fait, il faut aussi parfois aller regarder un verre posé sur une table et comprendre toute la philosophie qu'il y a autour. Et l'art, c'est souvent ça, c'est des choses qui servent à rien.
Qu'est-ce que nous avons fait, Amine Kessassi, pendant maintenant 59 minutes dans une heure? Qu'est-ce qu'on a fait, selon toi, là?
Je pense qu'on a discuté, qu'on a aussi répondu à certaines questions constructives, d'autres qui n'étaient pas très intéressantes, je veux le dire. et puis, merci à celles et ceux qui ont dit des choses, qui étaient intéressantes ou pas. Mais je pense qu'on a aussi... Et tenter à chacun dans nos prises de parole et dans nos messages, on a tenté aussi d'expliquer l'importance de ces sujets pour nous. Voilà, du coup, merci de m'avoir donné la parole, merci à ceux qui ont suivi et à très vite.
Merci à toi, force à toi. Et puis, c'est pas une invitation en l'air, si à un moment donné... Tu veux monter un débat avec ces dames, avec ces mères de famille. On sera ravis de les écouter, de discuter avec elles. Merci beaucoup, Amine.
Merci à vous tous.
Les amis, nous sommes sur opposte.fr. Abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça. C'est artisanal, on est entre nous. C'est opposte, opposte.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement, non, abonnez-vous à Opost.
J'encourage, faites un don à Opost. Ah non, c'est là la caméra.
Abonnez-vous Opost.
Et faites des dons à Opost. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à Opost. Il faut donner
de
l'argent
pour que ça existe.
Amis du café, amis de la police, abonnez-vous Opost.fr, Opost.fr. Abonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer le récit, c'est important. Ça passe par quoi? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir Opost.
Abonnez-vous!
Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à Opost et à Mediapart, ou deux.
Abonnez-vous!
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Opost.fr, y'a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là. Bompard soutient Opost, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas? Faites un don à Opost, il ne faut pas que ça soit qui reste. Donc je disais, il faut bien que vous provoquiez du débat, il faut provoquer du sujet, pour provoquer du sujet, il faut créer de la conflictualité.
Et comment je vais rester indépendant si Bompard, il demande aux gens de faire un don?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci.
Et abonnez-vous.
Abonnez-vous au poste.fr, Opost.fr.
Bravo. Bravo. Abonnez-vous au poste.fr.